Il est 20h et passé déjà de 2 minutes, on est extrêmement en retard parce qu'en fait on avait découvert qu'on avait plus de régie il y a environ une demi-heure. Et quand je dis plus de régie, je ne parle pas de notre merveilleuse réalisatrice Suzanne Zinka, je parle de tout l'aspect technique de la chose. Suzanne, est-ce qu'on essaye de lancer le générique envers et contre tout? C'est parti.
Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà.
Bonsoir Paris.
Salut. Yeah. Alors bienvenue.
C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
I'm like so gay, dude.
Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il a pas de souci.
Je pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Darling, I want my gay rights now.
Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle, c'est pas le même registre.
Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées.
Moi, je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez vite quand même.
C'est toujours les plus à même de raconter leurs histoires.
Le lobby sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. On est parti dans une émission où déjà tout le monde a perdu 2 points d'audition pour 1 heure de radio par et pour les personnes queer et celles qui ne savent pas trop. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Non, mais franchement, nous, ça ne va pas forcément mieux. Je ne parle pas seulement de notre régie, car qui dit octobre, qui dit, dit changement d'heure, jour qui raccourcisse, nez qui coule, pull qui gratte et crise politique un peu anxiogène. Alors dans le lobby, on vous propose 1 heure où on va essayer de prendre un petit peu soin les uns et les unes des autres. Et pour ce faire, une petite équipe de Mimi est avec moi dans ce studio. Salut tous les Mimi.
Salut.
Ça va?
Très bien.
Alors déjà, parmi les Mimi, il y a Lucie. Ça va?
Coucou,
de quoi
Colin.
Tu nous parles ce soir, Lucie?
Mais je me suis remise au sport après une pause de 18 ans.
Ok, intéressant. Tu vas nous raconter ça vers la fin de l'émission. Et puis, il y a aussi des nouvelles eaux avec nous. Et je commence par celle qui fut notre invitée cet été et qui n'est jamais repartie depuis. Donc je regarde notre invitée en disant attention, c'est à tes risques et périls. Salut Javel.
Bonsoir le lobby.
C'est toi qui as perdu 2 points d'audition. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. De quoi tu nous parles ce soir?
Je parlerai de représentation lesbienne au cinéma.
Très bien. Et puis en deuxième partie d'émission, zoom sur une initiative queer qui fait du bien. Salut Adrien.
Salut.
Qui est ton invité tout à l'heure vers 20h40?
C'est Hélène du Rapunzel Air Salon et on va parler de coiffure pour les personnes en transition.
Super, et puis jusqu'à 21h, on ne prend pas soin que de nos queer chevelus, jeu de mots. Bravo. On soigne aussi tout le reste en compagnie de notre invité. Dans son dernier essai, cet auteur et thérapeute explore la relation entre nos traumatismes individuels et les mécanismes de domination qui sous-tendent nos sociétés. Ça donne un bouquin foisonnant mais facile à lire qui donne à s'interroger sur ses propres blessures et sur ses propres violences et nous met sur la voie peut-être d'une guérison collective. Juliette Drouard est avec nous.
Oui.
Bonsoir.
Le lobby Radio Campus Paris.
Et c'est magique, les sons continuent à partir quand même. Suzanne, dis-moi si t'es un petit peu en galère sur les prochains. Voilà, on fait en sorte que tout se passe bien. Juliette, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit cette année. C'était le romancier qui était avec nous en début d'année à l'occasion de l'apparition de Cui-Cui, ton premier roman qui est l'histoire bouleversante d'un jeune ado queer victime d'inceste. Avec Trauma que tu fais paraître aux éditions Stock, tu reviens à quelque chose de plus théorique. C'est quand même une année sacrément productive pour toi, pour l'instant.
Punaise, c'est clair. Je suis en burn-out.
Ouais, c'est ça, j'allais te demander.
Je suis carrément en burn-out. Non, mais en fait, je les ai écrits un peu, enfin, en parallèle.
Ouais.
J'ai commencé Trauma, donc l'essai qui sort là, il y a un petit temps maintenant, peut-être 2-3 ans, ça m'a pris longtemps en fait. Et à un moment donné, j'ai fait une pause en écrivant Cui-Cui, qui était pour moi beaucoup plus de plaisir, parce que c'est la littérature et c'est plus créatif. Et voilà.
Oui, et puis je me souviens en plus que tu nous avais parlé quand tu étais venu en début d'année de comment la fiction aussi avait un rôle hyper important à jouer aussi dans la visibilisation de ces mécanismes et de ces violences. Donc les deux vont un petit peu de pair, c'est quoi
de
c'est...
Ouf.
Ouais, c'est ça.
De ouf.
On va du coup, je disais, c'est un essai assez foisonnant, assez technique aussi, donc on va commencer par définir les termes. Moi j'ai fait un parcours universitaire, c'est très important. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le trauma ou le traumatisme, Juliette Drouard?
Je vais donner peut-être la définition que je trouve la plus simple. C'est quand notre corps, ce qui inclut nos pensées, pense qu'on est toujours en danger alors qu'on ne l'est plus. Et parfois c'est pas tout à fait conscient. Je veux dire, des fois on est super agité ou complètement dissocié et on se dit pas tiens, je suis en train de me dire que je suis en danger. C'est devenu intégré. Mais effectivement, c'est le principe du trauma, c'est quand il est arrivé quelque chose d'assez violent pour porter atteinte à notre intégrité, on va dire physique et donc psychique. Mais que le corps ne s'en est pas remis, parce que parfois ça arrive et puis on s'en remet, puis deux fois ça arrive
et
on reste, voilà, et on reste bloqué en fait. On reste bloqué et donc comme on a l'impression qu'on est toujours en danger, bah, on a toujours du coup des réactions où notre corps est toujours sur un régime approprié pour se défendre contre le danger, mais qui n'est pas approprié à la vie du quotidien, à moins de finir épuisaxe.
Et alors tu parles aussi, et moi je trouve ça hyper intéressant, tu fais une distinction entre les traumatismes simples et les traumatismes dits complexes, et ce qui permet du coup de comprendre que être traumatisé, c'est pas forcément seulement le résultat d'un événement isolé, ça peut être aussi quelque chose de plus complexe littéralement, si tu peux revenir un peu sur cette définition là aussi.
Ouais. Et alors, bah, traumatisme simple, c'est un, bah, il est arrivé une chose violente. Alors, ça peut être un accident de voiture, par exemple, où on peut avoir un trauma après ça, ou un acte violent lié à une relation, enfin que quelqu'un d'autre nous inflige, donc qui est circonscrit dans le temps et qu'on peut isoler. Alors que les traumatismes complexes, bah, c'est une suite d'événements. Laquelle donc on n'a pas pu se soustraire, mais qui se sont ajoutés les uns les autres. Donc typiquement, quand on est dans des relations pendant longtemps, et donc c'est toute une somme d'actes, voire quand on est enfant, et donc où c'est, où on est, disons, c'est l'âge le plus propice au traumatisme. Évidemment, ça peut tout à fait arriver à l'âge adulte, mais vu qu'on est plus vulnérable, voilà. Donc typiquement, des relations avec des parents où il y a des violences, là on est sur des traumatismes complexes de facto. Et moi, c'est vrai que ma vision de la traumatologie fait que tout problème ou difficulté de santé mentale, c'est-à-dire la difficulté à faire lien avec les autres, relève, à mon sens, de traumatisme.
Peut-être on peut revenir sur ce que c'est la traumatologie, donc cette discipline à laquelle tu te réfères dans ton bouquin, parce qu'elle a une origine aussi assez intéressante qui est post-guerre du Vietnam, si j'ai bien compris.
Alors, effectivement, il y a eu, en tout cas, je ne sais plus si c'est l'origine, mais qui a pris son essor, notamment à ce moment-là. Parce que, après, c'est pas forcément l'origine. Il y avait déjà, au temps de Freud, Jean-Pierre Jeunet, qui est un Frenchie, qui était très, tout à fait, on pourrait dire, dans la traumatologie. Mais, en tout cas, c'est devenu plus patent parce que, lors de la guerre, il y a eu des milliers de soldats donc, qui sont partis dans tel état et qui sont revenus dans tel état. Donc il y a eu aussi, du coup c'était plus facile à voir qu'il y avait un bordel.
Super. Et donc, alors, ce que je trouve intéressant justement, je disais ton essai il est foisonnant parce que tu mets en relation ces connaissances en traumatologie, donc voilà comment ça fonctionne le trauma, comment est-ce que tel acte violent que je reçois dans mon enfance par exemple s'imprime en moi, etc. Et tu mets ces relations, ces connaissances-là avec un discours plus politique, avec des connaissances aussi plus politiques. Tu parles, et je pense que c'est une clé aussi pour comprendre ton essai, de politiser la thérapie et thérapiser la politique. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça veut dire ce projet-là?
Total.
Ah, j'ai écrit ça, c'est vachement malin.
Ouais, c'est catchy, mais maintenant, comment j'en parle? Tout le principe de cet essai, en fait, c'est de dire que ce qu'on dit en politique, ce dont on parle en politique en termes de liens de domination, qui peuvent effectivement être, selon les systèmes racistes, sexistes, classiques, validistes, etc., sont, à mon sens, à rapprocher des liens traumatisés. Simplement, quand on en parle en politique de ces liens de domination, on fait référence à certains liens traumatisés qui sont quand il y a des passages à l'acte violent à l'occasion d'un rapport de pouvoir. Mais il n'empêche que pour moi, c'est la même chose que des liens traumatisés, même si on les prend dans certaines configurations, en sachant que dans d'autres configurations, ces liens traumatisés soit ne donneront pas lieu à des passages à l'acte violent, soit ce sera des passages à l'acte violent contre soi, soit ce sera des passages à l'acte violent contre des personnes où il n'y a pas forcément des rapports de pouvoir systémiques. Bon, en tout cas, étudiés en tant que tels et systématisés dans une forme d'opposition. On va dire d'une classe contre l'autre, parce que c'est encore un peu comme ça qu'on les pense.
Je l'ai dit en intro, tu es auteur et thérapeute, c'est en tant que thérapeute queer que tu écris. Est-ce que tu peux nous parler de ton approche, comment tu travailles avec les patients que tu as en consultation? Si je ne dis pas de bêtises, en plus je crois que tu as essentiellement des patients qui sont, je ne sais pas si tu parles de patients, mais qui sont eux-mêmes des personnes queer. Et je crois que c'est assez important aussi dans la relation que tu tisses avec elles.
En fait, la plupart des personnes qui s'adressent à moi sont des personnes queer, mais pas seulement. Il y a aussi J'allais dire, n'importe quelle ouais. personne, aussi beaucoup de personnes qui ont subi de l'inceste. Mmh. Mais c'est vrai que principalement des personnes queer, ce qui me ravit parce que j'adore. j'aime les gens. Enfin, je pense que c'est important ouais. si on fait ce métier-là. J'aime beaucoup, beaucoup les gens. Mais il y a quelque chose qui m'émeut particulièrement aussi d'être sûrement. Dans un dispositif thérapeutique avec des personnes queer. Ça me touche parce que ça a rarement, historiquement, été possible. Mmh. Donc peut-être que c'est aussi un endroit...
Tu veux dire deux personnes queer ouais. des deux côtés de la ouais. relation thérapeutique, quoi.
Ouais, mmh. Je pense que ça me... Mais voilà, c'est de toute façon des relations qui m'émeuvent. Et c'est un cadre, dont on ne fait jamais le tour, qui est hyper créatif, étonnant... bizarre.
Et en quoi aussi, Mais du coup, effectivement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a de différent quand on s'adresse à un thérapeute queer? Et donc, toi, en l'occurrence, qu'est-ce que tu penses qu'il y a de... Qu'est-ce que tu dirais qu'il y a de singulier dans ton approche, du coup?
À part le fait que je sois souvent en jogging, qu'il y ait des œuvres d'art queer un peu partout dans le cab. Je vais parler de moi, mais en fait, ça ouais. parle de ça. Mais j'ai mis très, très longtemps, moi, à aller en thérapie alors que j'allais extrêmement mal. Et j'en ai pris la mesure au fur et à mesure du temps. Et je pense qu'une des choses qui a participé à ça, ce n'est évidemment pas la seule, parce que je pense, comme beaucoup de personnes, j'avais envie de m'en sortir seul parce que justement j'avais pas confiance en les autres et que c'était le problème, donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Mais une des autres choses, c'est que je pense que j'avais pas conscience qu'il pouvait y avoir des thérapeutes justement queer. Et j'ai découvert aussi, à l'occasion d'une formation en traumato d'ailleurs, à quel point je me sentais en insécurité subjectivement avec les personnes qui n'étaient pas queer. Où notre formatrice disait « Ah, de 0 à 10, vous êtes à combien dans le groupe ?» C'était un groupe de gens mais hyper mignons. Enfin bon, il n'y avait pas de... Et en fait, spontanément, dans ma tête, j'étais à 1. Bizarre. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ma propre réponse. Et par contre, je suis allé en thérapie, en fait, quand à un moment donné, on m'a dit « Ah, cette psy, elle est lesbienne, je suis bien avec, blabla. » Et en fait, il s'est avéré cut 2 ans plus tard qu'elle n'était pas lesbienne. Peu importe. Parce que, tout ça pour dire que c'est aussi très important. Bien sûr qu'on peut éviter certaines violences objectives, mais parfois, il n'y a pas de violences qui sont créées par des personnes qui ne sont pas queer. Hein, faut pas... Mais par contre, subjectivement, pour pouvoir faire thérapie avec quelqu'un, il faut se sentir en confiance. Et parfois, on peut se sentir en confiance qu'à certains endroits. Ça peut être queer ou ça peut être aller voir une personne handy. Ça peut être... Voilà. Donc, ça crée de la confiance.
Alors, on l'a dit, l'idée de ce livre « Trauma, en finir avec nos violences » paru chez Stock, c'est de comprendre comment les traumatismes engendrent donc, de la violence, comment fonctionne cette relation-là. Ton approche, tu le racontes dans le bouquin, elle s'éloigne d'une tradition freudienne qui voudrait que les maladies mentales soient les reflets de, entre guillemets, « conflits intérieurs » de celles qui y sont sujets. Et toi, tu t'inscris plutôt dans une perspective selon laquelle les neuroatypiques, que ce soit un trouble de l'attention, des TOC, trouble de l'alimentation, hypersensibilité, tout ça, ça peut être des symptômes de traumatismes qui n'ont pas été traités, en gros, c'est ça?
Alors ça, c'est un passage dans le livre par ouais. rapport aux neuroatypies. On ne peut pas trancher de manière absolue en
Bien
disant
sûr, pour voilà, tout le monde, voilà.
pour tout le monde
une hypothèse possible, une analyse
mais
possible.
En tout cas, très souvent, et je ne suis pas le seul à le remarquer parmi les thérapeutes, il y a beaucoup de connexions entre symptômes de traumatisme et neuroatypie et beaucoup de connexions entre les personnes neuroa et les traumas. Oui, effectivement, je fais ce parallèle en mettant des exemples de symptômes qui se retrouvent aussi souvent
et qui
dans
sont
les
pas
neuroa,
forcément liés à des traumatismes et qui peuvent, en tout cas, ça peut être une clé de lecture qui n'est pas forcément beaucoup adoptée. On entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux depuis quelques années d'autodiagnostic réalisé par des gens qui n'ont pas forcément accès à la thérapie parce que ça représente aussi un certain coût. Et aussi, moi, ce que je comprends aussi de ton bouquin, c'est il y a ce côté méfiance, il y a ce côté inaccessibilité de la thérapie parce qu'il y a un coût, mais il y a aussi le fait que pour faire reconnaître des troubles psychiatriques, il faut justement passer par la psychiatrie. Et on comprend aussi en lisant ton livre qu'il peut y avoir quelque chose de très normatif aussi dans cette discipline et de presque stigmatisant par rapport à la maladie mentale. Est-ce que c'est ça aussi qui fait que, du coup, à partir de ça, quel regard toi tu portes sur cette pratique de l'autodiagnostic? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose du coup de d'émancipateur. Voilà, quel regard t'as là-dessus?
J'ai presque envie de te dire, j'ai pas forcément de regard particulièrement là-dessus, mais je trouve que les diagnostics, il faut que ça fasse du bien. Voilà, je sais pas comment le dire autrement. On peut être frileuse ou frileux au diagnostic parce que ça, on se sent enfermé. On peut au contraire, grâce à un diag, rejoindre une communauté. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant par ailleurs dans la question des diagnostics, c'est qu'en fait c'est un ensemble de symptômes qui fait que on se met dans telle ou telle case. À mon sens, encore une fois, tous les symptômes relèvent de la traumatologie. Mais cet ensemble de symptômes là fait qu'on va rentrer dans une communauté de personnes qui ont ces mêmes symptômes, et du coup il y a de la littérature sur comment, aussi beaucoup de littérature sur qu'est-ce que ces personnes ont fait de ces symptômes là. Que ce soit en termes médicamenteux ou que ce soit en termes toolbox, trucs et astuces, comment gérer les choses. Et donc je trouve que c'est hyper important de pouvoir bénéficier de toute façon de ce genre d'apport et de savoir. Mais pour moi, le diag, il faut que ça fasse du bien. Voilà.
Presque peu importe l'étiquette, l'idée c'est le soulagement que ça peut créer, quoi.
S'il y en a un, effectivement.
On continue à parler de trauma, En finir avec nos violences, ton livre donc qui vient de paraître aux éditions Stock. Et là, on va peut-être écouter de la musique. Suzanne Cinca, qui a la réalisation, je te regarde, est-ce que c'est bon, est-ce que ça part? On y va? Non? C'est plutôt non. On ne sait pas. Non, c'est plutôt non. Non, écoute, tu me tiens au courant pour la suite. Là, on se dit pas de musique, et c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai d'autres questions pour toi, Juliette. À propos de trauma,
Tu vas aller chanter. C'est pas ça que tu m'as dit?
Non, j'ai dit qu'on allait chanter le générique, mais c'était pour de faux. Je ne me sens pas de le faire finalement.
Je suis tellement crédule.
Alors, donc, on était en train de parler des neuroatypies qui peuvent donc éventuellement être des symptômes, des conséquences des traumatismes. Mais donc, et là, on en arrive un peu au cœur du sujet, la violence, nos violences aussi, peuvent être des symptômes, des conséquences de ces traumatismes. Tu expliques bien comment ces traumatismes peuvent conduire à des discours, à des actes qui peuvent être aussi, tu le disais tout à l'heure, racistes, LGBTI-phobes, etc. Forcément, alors c'est peut-être aussi parce que je résume à gros traits ton livre qui est beaucoup plus complexe que ça, mais la première réaction, c'est en tout cas, et j'avais eu un peu la même en lisant un livre que tu cites beaucoup qui est... Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman, c'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu un risque de déresponsabiliser les gens qui se rendent coupables de violence? Alors, tu fais à peu près un chapitre entier là-dessus, mais si on pouvait rassurer un petit peu nos auditeurs en quelques mots, comment est-ce qu'on fait pour dire, justement, l'idée n'est pas du tout de déresponsabiliser les gens qui produisent ces violences, même si on peut les expliquer par leur traumatisme passé?
Ah, mais on veut que rassurer nos auditeurs.
Certes, il n'y a pas de musique, mais il y a Juliette Drouard qui est là pour vous susurrer dans l'oreille, donc tout va bien.
Exactement. Déjà, première chose, et je le rappelle, je trouve que c'est important de ne pas moraliser la question des personnes qui ont subi des traumatismes. C'est-à-dire, on a tendance à percevoir les personnes qui ont subi des traumatismes comme étant gentilles. Et pour moi, ce n'est pas la question, en fait. Ce n'est pas d'être gentil ou méchant. On a subi des traumatismes, point. Après, ce qu'on en fait qu'on va produire soit des actes on va produire peut-être, en tout cas c'est le terreau propice à produire des actes, disons, de dysfonctionnels à violents. Je connais personne qui ait subi des traumatismes qui n'ait pas un semblant de difficulté dans des relations. Après, encore une fois, et dans le livre, c'est très important pour moi d'échelonner c'est quoi les choses dysfonctionnelles et c'est quoi les actes violents. Donc partant de là, effectivement, il n'est jamais question de dire que quand on a des traumas, on est soit gentil, soit méchant, que ça nous donne une morale ou que ça nous l'enlève.
Et pareil, les gens qui produisent de la violence ne sont pas non plus que les méchants, enfin tout ça est beaucoup
exactement
moins binaire.
C'est d'aller effectivement sur une logique des actes qui sont sur une éthique des actes et non pas une sorte de binarité morale sur il y a des gentils, il y a des méchants, mais plutôt il y a des actes violents et à ce titre-là, on doit d'une part évidemment y mettre des stops et d'autre part que la personne se responsabilise par rapport à ces actes-là et que cette prise de responsabilité, elle fait d'ailleurs partie du soin. C'est-à-dire, c'est aussi voir les dispositifs de soins, pas que comme quelque chose de doucereux, mais même si évidemment il y a besoin de plein de choses, d'empathie, de bienveillance, de soins. Mais le soin, c'est aussi mettre des stops. C'est aussi dire stop tant que la personne, à un moment donné, se responsabilise pas de l'acte qu'elle est en train de qu'elle a commis ou qu'elle est... Donc je sais pas si c'était assez rassurant hors note.
Si plutôt, mais alors du coup je vais un peu plus loin parce que tu donnes cet exemple qui peut peut-être faire hérisser quelques poils. Je te cite.
Ah punaise.
ça y est, je sors les doses.
Ah, tu sors les doses du livre. Il y a tellement de pages. Colin, laisse-les dans le livre.
J'ai arraché une page comme ça que je tiens entre mes dents et dessus il y a écrit « On ne va pas penser aux violences que Depardieu a subies ou à ses problématiques en santé psychocorporelle au moment où il commet ces violences, des violences, et pourtant il n'a pas l'air d'aller bien. » Et il y a un truc que je trouve où sur le coup je suis là, genre je vois ce qu'il veut dire. En même temps, il y a un truc un petit peu provocant de sortir le monstre de Pardieu pour reprendre la façon dont il est beaucoup présenté. Est-ce que du coup, ce à quoi tu nous appelles, c'est un peu une forme d'empathie radicale? Ou bien sûr, l'idée c'est pas de dire genre pauvre petit de Pardieu avec toutes les violences qu'il a subies, mais un peu voilà, sortir un petit peu. Enfin, on revient à ce que tu disais sur la moralisation, mais du coup, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à de Pardieu. Pas simple ce que tu nous demandes.
Punaise. En fait, c'est même pas une demande, c'est plutôt, pour moi, c'est factuel. C'est-à-dire, tu regardes le gars, il va pas bien. Pas te dire qu'il va bien, il va pas bien. Tu le regardes, il va pas bien. C'est évident. Est-ce que ça fait que je demande qu'on ait que des personnes aient une empathie spécifique pour lui ou que non, je dis c'est factuel. Cette personne-là ne va pas bien et a commis des violences en profitant, et comme c'est souvent le cas, d'une relation de pouvoir parce que c'est plus facile.
Voilà, Depardieu ne va pas bien, à méditer, chers auditeurs.
Ah, finesse.
Un bel été cathartique. On roule à ciel ouvert, direction le Mexique. Tu t'éloignes de moi, je me perds. Je suis un cas critique. La vitre est pleine de moustiques. Pourquoi j'adore tes bras quand rien ne sent magique? Je rigole, je crie, et toi? En mode automatique. Tu domines, une caresse, moi j'ai le spin. Mon amour, grâce à toi, j'ai les zygomatiques en panique. Comme dans une pub de rasoir ou de narcoleptique. Mais c'est fantastique, tu verras toujours mes problématiques. Prochaine arrêt San Diego. Tu m'accroches à tes mots. Garde-toi là mon beau. Me détache c'est trop. Ton humeur blême me ramène au cœur du problème. Tu domines, caresse-moi j'ai le spin. Mon amour grâce à toi, j'ai les zygomatiques en panique. Comme dans une pub de rasoir ou de narcoleptique. Mais c'est fantastique. Tu verras toujours mes problématiques. Tu éviteras les erreurs. Un jour, une autre erreur, tu rouleras sur mon cœur. Mais c'est fantastique. Tu verras toujours mes problématiques.
fantastique, c'est un adjectif qui qualifierait parfaitement toute l'équipe du lobby, surtout ce soir, et notamment Suzanne Cinca qui réalise notre émission, et avec quel talent. Et c'est le nom du dernier titre de Gabriel Ajar, c'est ton choix, Javel.
En effet, Gabriel Ajar, un artiste pop qui se considère comme un sudiste, ou plutôt un dandy sudiste, voilà, élégant, à la voix chaude et enveloppante. Et je vous encourage très fort à aller l'écouter sur les plateformes d'écoute et à aller le voir performer. Il vous enveloppera de toute sa grâce et de toute sa douceur.
Mais tu nous l'as trop bien vendu. Bah merci Javel. Allez, 20h27 sur Radio Campus Paris.
Le lobby. Radio Campus
Paris.
Yeah. Et on retrouve Juliette Drouard qui publie Trauma. En finir avec nos violences, qui vient de sortir aux éditions Stock, une tentative de fournir des outils pour guérir collectivement de nos traumatismes et éviter de reproduire ces violences qu'on a subies autour de nous. Dans ces outils, tu parles du violentomètre qu'on connaît assez bien, donc cette espèce de règle graduée où on voit un petit peu les différents red flags, entre guillemets, des relations du moins grave au plus grave, entre guillemets. Et c'est intéressant justement, parce que c'est toute une partie du livre, de dire que c'est intéressant, tu l'as dit tout à l'heure, de penser la gradation des violences plus que comme un continu. J'aimerais bien que tu nous développes ce point-là.
Effectivement, une partie du problème dans les relations, c'est que on a du mal à savoir c'est quoi la violence. Et ça peut prendre, ce problème peut prendre deux formes extrêmes différentes, qui est soit le déni des violences, c'est-à-dire, tout d'un coup rien n'est violent. C'était pas moi, mais il y a aussi la surréaction à des choses qui sont pas graves et où tout d'un coup les gens explosent en vol et du coup ça produit un enchaînement aussi parfois de violence, mais en tout cas de choses difficiles, parce qu'il y a il y a soit des surréactions ou des hypo-réactions. Et effectivement, l'idée, c'est, à mon sens, c'est pas de dire le continuum comme si à chaque fois qu'il y a un truc, ça contenait forcément tout le reste, mais plutôt de prendre chaque acte, en fait, qui se produit, et de se demander, ok, si je le mets sur une échelle, comment est-ce que je peux le qualifier ? Et au passage, enrichissons notre vocabulaire. C'est vrai, est-ce que ça m'a simplement agacé ? Voilà, ça m'a titillé.
La nuance, tu parles de la nuance un peu de ce que ça peut provoquer chez nous, dans notre corps aussi, parce que tu reviens à quelque chose d'assez corporel dans ton livre.
Tout à fait. Et comme le corps, encore une fois, c'est aussi la pensée. Enfin, si notre corps est agité, nos pensées sont agitées. Si nos émotions sont à 20 000, bah, nos pensées sont à 20 000 et deviennent binaires. Donc, en vrai, je rigole pas quand je dis étoffons notre vocabulaire. C'est que plus on a de mots pour dire toutes les nuances de la colère ou de ce que les choses nous font, plus effectivement on arrive, si on le fait avec sincérité, évidemment c'est un exercice qu'on doit faire avec honnêteté intellectuelle, à replacer ce qui est en train de nous arriver, et est-ce qu'au final c'était pas juste dur, ou alors quelque chose qu'on veut pas regarder ou on n'a rien fait, est-ce que c'était pas vraiment violent et qu'on n'aurait pas dû se barrer.
Et tu parlais des surréactions, et tu racontes beaucoup aussi que c'est une... quelque chose qu'on a tendance beaucoup à faire dans le milieu militant, notamment les milieux queer militants. Ça m'intéresserait un petit peu aussi que tu nous dises comment tu te places par rapport à ces milieux, justement, que tu critiques dans ces dynamiques-là, mais avec aussi une certaine tendresse, justement, puisque c'est aussi un appel à revenir, justement, à ces nuances dont tu parlais. Voilà, comment toi, tu te places aussi en tant que thérapeute qui a réfléchi à ces systèmes de domination, qui les a vus aussi à l'œuvre au sein de nos propres cercles, par rapport à ces milieux militants ? Question... Beaucoup de mots.
Je sais pas, en tout cas, c'est quelque chose qui nous parle à tous, je pense, quand on dit ça. Qu'il y a une. Après, peut-être que c'est dans d'autres milieux. Quand je dis milieu militant, c'est aussi parce que c'est des cercles que je fréquente, mais ça se trouve, c'est partout pareil. Mais je dirais que peut-être ce qui est particulier, c'est qu'on a une immense attention à ne pas produire des actes qui sont évidemment violents. Quand on est dans des milieux militants, c'est-à-dire on sait, on ne va pas dénier qu'un viol c'est violent ou qu'il n'y a pas eu. Voilà. Donc il y a tout un répertoire, on va dire, d'actes, en tout cas agressifs, qui sont vus pour ce qu'ils sont, ce qui est top. J'ai l'impression qu'il y a une grande focus là-dessus, mais parfois aussi une forme d'hyper réaction à des choses qui parfois ne sont pas violentes, et tout devient problématique ou problème, comme si on était tellement apeuré aussi de la violence et de la laisser passer, d'être dans le déni, que c'est comme si on avait le filtre critique absolu devant les yeux et que toute chose était passée à travers un espèce de screen de, où se demander si le mot, est-ce que c'est vraiment c'était bien, mais où des fois ça prend des proportions qui sont trop fortes et en fait ça engendre quelque chose qui est bien pire que ce que ça veut prévenir.
On va continuer à en parler dans un petit instant, mais là, c'est l'heure d'accueillir un nouveau chronique.
Colin, mais tu fais semblant d'avoir oublié ma chronique, mais c'est trop mignon qu'elle fasse ça. Bon, allez, tous en cœur. Père Castagne, raconte-nous une histoire. Père
Castagne. Pardon, mais qui êtes-vous, en fait? Que faites-vous dans ce studio
Mais Colin, c'est moi. C'est Père Castagne. Enfin, j'ai un peu rafraîchi mon fading, mais quand même, les autres, Lucie...
Ah, mais Père Castagne, mais si, mais oui, Père Castagne. Mais qu'est-ce que vous faites là, Père Castagne?
Il y a des manifs et des blocus, alors je reviens. Je réapparais parce que c'est mon essence, je respire la révolte, je vis soulèvement, que dis-je, la révolution, c'est moi. Et ensemble, mais surtout avec moi-même, nous atteindrons les cieux glorieux de... Oui, j'ai vu tes yeux, c'est bon, j'enchaîne, c'est bon. Lundi, c'était la rentrée du nouveau gouvernement avec le cornu à sa tête, le premier ministre qui s'en va et qui revient. Il fait tout petit rien, je chante mal. Et surtout, il compte bien être retenu comme une chanson populaire. Et quoi de plus populaire que l'austérité? C'est le message qu'il passe à sa nouvelle équipe quand il promet un gouvernement qui sera là pour tenir les cordons de la bourse avec discernement et justice. Oh oui, Sébastien, tiens-moi bien les cordons. Pardon, j'étais à la dernière Monts et Merveilles, ça a laissé des traces. En somme, c'est le topos du gouvernement de la raison, bien loin du faste et des extravagances de la noblesse d'État. Avec le cornu, il est fini, le temps des homards et des jets privés. Les ministres doivent, je cite, « avoir une éthique collective personnelle dans le collectif qui soit parfaite ». Vous n'avez rien compris? Moi non plus. Il veut un gouvernement de personnalité libre, mais attention, pas sans ordre. On est à deux doigts de l'idéal anarchiste. Hein. Ah, moi ça m'a fait plaisir d'entendre ça sur BFM, même si je sais que c'est du flan. Non, parce qu'il n'y a pas de personnalité libre dans une logique de marché, seulement des corps exploités pour maximiser les profits, hein, relisez Marx. Mais il faut maintenir l'illusion, alors le cornu le rappelle. Pour mener à bien ce projet, il faudra mettre les égos de côté. Et ça a attiré mon attention. L'ego, c'est une notion qu'on voit souvent apparaître quand on parle politique, et pas que sur BFM. Dans nos discours militants, nous, les islamo-wokistes queeros, nous aussi, on fait la chasse aux égos. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Vous l'avez deviné, ego, ça vient du latin. C'est le pronom singulier de la première personne, traduction « moi ». Avec Kant, on va rapidement arriver à l'idée d'unité synthétique d'individu, qu'on retrouve aussi chez Yankelevitch. Et oui, on se culture ici. Hein.
Wow.
N'est-ce pas? Bonus pour celles qui se sont tapés l'être et le néant de Sartre. Déjà, bravo. Et ensuite, vous connaissez peut-être le concept d'ipséité, l'adjectif pronominal latin « ipsé », qui permet de former « ergo ipsum », qui veut dire « moi-même ». Bref, l'ego, c'est le « moi », c'est l'individu singulier. Ouais, j'ai fait 12 ans de latin grec et j'ai daté une prof de philo, il y a quoi?
Oui.
Ok, mais ça ressemble à quoi l'ego dans nos milieux militants? C'est par exemple en co-organisation, une asso, un collectif qui se pose comme une force incontournable. Et ça pose problème quand on n'est pas d'accord. Parce que quand on fonctionne majoritairement au consensus, c'est-à-dire sur la base de tous, que tous autour de la table, on est prêt et prête à faire des compromis pour avancer vers un but commun, c'est pas facile de se mettre d'accord avec quelqu'un qui joue pas le jeu. Un autre cas, cette fois, c'est au sein d'un collectif, c'est le fait de se rendre indispensable. Et c'est vrai que c'est rassurant d'avoir un monopole. Moi, le premier, j'aime me sentir utile auprès de mes camarades et me dire que je gère certaines tâches mieux que d'autres, que je suis la référence quand il s'agit de tenir une trésorerie, par exemple. Et ça me pique toujours un peu quand il y a le danger de la concurrence. Dans un monde qui nous écrase, ça fait toujours du bien de se sentir reconnu. En revanche, moi, ça me chiffonne quand ça se fait en écrasant des camarades, et je pense qu'il faut y faire attention. D'abord parce qu'on n'a pas le temps de se marcher dessus si on veut faire la révolution, mais aussi et surtout parce que ça peut rapidement entraîner des logiques d'exclusion. Quand tu es l'AE plus forte, c'est lui qui est l'AE plus reconnu dans le groupe, tu as le monopole de la légitimité et en cas de conflit, c'est toi qu'on va écouter en priorité. Sans le vouloir, on crée une hiérarchie, c'est l'effet cool kid. Et s'il y a des cool kids, ça veut dire qu'il y a des outcasts, des gens moins cool, moins intégrés, parce que moins dans les canons des habiletés. Et notre projet de société, c'est pas ça. Il y a urgence à faire collectif. Un collectif plein de camarades qui shine sans se faire de l'ombre. Alors venez, on brille ensemble en manif et on laisse les gardes d'égo aux capitalistes.
Merci beaucoup, Père Castagne, alias Chat. Merci beaucoup. Oui, on peut faire des petits... je veux dire, j'ai pas prévu d'applaudissements enregistrés parce que rien ne fonctionne. Merci beaucoup. Juliette Drouard, on n'a pas le temps de se marcher dessus quand on fait la révolution, nous dit Chat. Ça te parle un petit peu quand même, du coup. C'est un petit peu dans la ligne droite de ce qu'on se disait juste avant.
Non. Enfin, si. On va pas. C'est sûr, ne nous marchons pas dessus dans le sens de ne nous écrasons pas sous littéralement sous nos semelles. Ça, c'est mal. Ça, violent, d'accord. Si on veut jouer au jeu du oui-non. En revanche, un petit peu de conflictualité.
Voilà.
Sans que le groupe implose. Parce que il y a eu un petit souci, ça c'est oui.
Et c'est ma question justement, on va un petit peu finir là-dessus. C'est comment on se débarrasse dans nos milieux de ces pratiques d'exclusion un peu qu'on évoquait juste avant la chronique de chat. Bah, justement, c'est en n'évitant pas le conflit, en y allant vraiment justement, mais pas de manière punitive, pas en se disant s'il y a conflit, ça veut dire qu'on doit se séparer de nos membres. Enfin, c'est un petit peu ça la solution finalement, une des solutions, une des voies que tu nous proposes.
Ben oui, tout à fait. En tout cas, il y a des voies à la fois de l'ordre individuel dans des dispositifs ou de groupe, mais dans des dispositifs de thérapie, et à la fois aussi des voies évidemment de médiation, de justice transformatrice. Mais effectivement, l'idée étant d'aller vers l'expressivité. L'expression en tout cas de ce qui se passe, la reconnaissance de la factualité des deux côtés, de l'historique du conflit, de ce qui s'est passé, et la prise de responsabilité en cas effectivement de violence, et cette prise de responsabilité qui est à saluer. Et puis voilà, il n'y aura pas de monstre.
On va peut-être finir là-dessus, du coup il n'y aura pas de monstre. Il y a beaucoup de voies, de pistes de réflexion et de solutions que tu proposes dans ce livre Trauma, en finir avec nos violences, qui est paru aux éditions Stock. À suivre dans la prochaine demi-heure du lobby, J'avais la Bibi, un salon de coiffure fier et révolutionnaire, et puis Lucie. Donc tu restes avec nous, Juliette, avec ce teasing.
Ah bah grave,
ça donne envie. Allez, à tout de suite. Ah non, pas de musique. Ah oui non, c'est vrai que j'aurais dû regarder Suzanne avant pour savoir s'il y avait de la musique. Il n'y a pas trop de musique. S'il y a de la musique, voilà, allez, c'est parti.
Bienvenue dans son dit, je suis en feu ce soir, je vais jouer ma biche ce vendredi. Bitch, on fera tout ce que tu veux ce soir, tout est bon dans la Audi. Faut que ta body, elle me fait quoi, elle me fait la body. Je veux pas tes nudes, je pense qu'à tes formes, moi je veux ton body.
Je veux ton body et ton cuir. Je suis gourmand des Congolaises, donc toujours j'ai envie. T'es un criminel si t'insistes quand elle dit pas oui. Le consentement c'est universel, c'est ok si je te mets un doigt dans le cri. Y'a les fesses, on s'abaisse. Si t'es chaud, j'enlève ma veste. L'alias est épaisse, et ma veste, on encaisse.
J'ai ton méchique pour ses fesses.
Bien sûr, on je suis en feu ce soir, je vais chez ma biche ce vendredi. Bitch, on fera tout ce que tu veux ce soir, tout est bon dans la Audi. Faut que ta body, elle me fait quoi, elle me fait la body. Je veux pas tes nudes, je pense qu'à tes formes, moi je veux ton vendredi. Je suis en feu ce soir, je vais chez ma biche ce vendredi. Bitch, on fera tout ce que tu veux ce soir, tout est bon dans la Audi. Faut que ta body, elle me fait quoi, elle me fait la body. Je veux pas tes nudes, je pense qu'à tes formes, moi je veux ton body.
Ah, elle veut faire sur moi, oui c'est la merde. Cette blanche, je veux prendre ma neige, je la baigne et je la blesse. Elle vient dingue, oui je la taise. Ah, cette body me blesse, sur le bête je la blesse. Ah, des bodies, j'en ai 13.
J'en ai quatre, cinq ou seize. La bitch est bonne et moi j'y pêche.
Elle trop sucrée et me lèche, dans le caca, dans la benne.
Et je l'ai béni dans la gueule, je vais le frapper, elle en glisse. Et je vais tirer par les traits.
Seul incendie. Je suis en feu ce soir, je vais chez ma biche ce vendredi. Bitch, on fera tout ce que tu veux ce soir, tout est bon dans la Audi. Faut que ta body, elle me fait quoi, elle me fait la body. Je veux pas tes nudes, je pense qu'à tes formes, moi je veux ton incendie. Je suis en feu ce soir, je vais chez ma biche ce vendredi. Bitch, on fera tout ce que tu veux ce soir, tout est bon dans la Audi. Faut que ta body, elle me fait quoi, elle me fait la body. Je veux pas tes nudes, je pense qu'à tes formes, moi je veux ton body.
Et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris, vous écoutez Le Lobby. On vient d'écouter quoi, Lucie? C'était ton choix musical, raconte-nous.
On vient d'écouter Badiz de Ezek, Dawayup, Nasty et Two Pills. Moi, je connais Ezek beaucoup sur TikTok. Okay. Suivez-la, c'est une gouine flamboyante. Elle est très drôle avec sa femme, elles font des vidéos exceptionnelles. Et elle chante exceptionnellement bien, j'aime beaucoup.
Eh ben merci beaucoup. Alors à 20h41 maintenant, il est temps d'accueillir celle à qui j'ai défoncé l'oreille tout à l'heure. On la connaît pour ses soirées drag et cinéma qu'elle anime depuis 4 ans à la Flèche d'Or. Et ce soir, elle est avec nous pour sa première chronique radio. C'est la drag queen Javel Habibi.
Merci, oui Colin. Et en effet, le drag étant un art très visuel, je me suis dit quoi de plus logique que de venir faire de la radio.
Eh oui.
On est donc ce soir sur une version de mon drag hyper minimaliste. Et à la fois, si vous me connaissez, vous savez quand même que s'il ne reste que ma voix, mon cœur et ma pensée, l'essence de mon drag sont là. Enfin, est là. Alors, comme à mon habitude, je vais vous parler de cinéma avec un film actuel, à savoir La Rumeur de William Wyler, sorti en 61. Alors pourquoi actuel? Parce qu'en fait, je l'ai revu hier et j'ai pleuré parce qu'il m'a parlé comme s'il avait été fait aujourd'hui. On est donc sur l'histoire d'Audrey Hepburn et Shirley MacLaine, deux institutions qui ouvre un pensionnat de jeunes filles. Et là, dès le début, c'est la modernité. Deux femmes autonomes, amies, qui montent un centre éducatif anti-châtiment corporel, attentives aux enfants avec lesquels elles vivent en bonne intelligence. Y a des établissements privés du 16e aujourd'hui qui n'en sont pas encore là. Alors, assez tôt dans le film, l'amoureux d'Audrey Hepburn sort un commentaire sexiste à Shirley MacLaine pendant qu'elle fait la vaisselle. Alors, le commentaire, c'est « Femme qui chantonne est heureuse à la tâche ». Aussitôt, elle lui répond que c'est une connerie et que vu le temps qu'il passe à squatter cette cuisine, ça serait pas mal de temps en temps qu'il donne au moins un coup de torchon. Puis pour ce qui est de fonder une famille, elle s'occupe déjà de 20 mômes, donc ça va bien, merci. Et ça fait du bien de voir ces actrices qu'on connaît dans des films pas toujours déconstruites portées en 61 des personnages féminins sans cringe. Alors d'ailleurs, il y a un truc que j'adore, c'est que quand les deux personnages féminins se disputent, elles disent tout de suite « Désolée, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je me sens insecure. » Mais bien sûr, fais ce qui est bon pour toi. Voilà, fin de la dispute. Et c'est le genre de dialogue qui me donne envie de ne plus relationner qu'avec des personnes dotées d'une intelligence émotionnelle supérieure, c'est-à-dire des lesbiennes. Car oui, le film est aussi un des premiers à mettre en scène un personnage lesbien au cinéma hollywoodien. Comme son nom l'indique, malheureusement, on bascule assez vite dans le dark. Une rumeur se répand dans le pensionnat de jeunes filles et tout explose parce qu'à un moment donné, on dit de l'attachement de l'une envers l'autre qu'il est contre nature. Et c'est là que le film nous montre ce que c'est qu'une rumeur. Une rumeur, c'est un œil qui épie, des bouches qui chuchotent. Tout se fait par insinuation. D'ailleurs, le seul mot qui est posé dans le film, c'est « lovers ». Comme un rappel, qu'au fond, il ne s'agira que d'amour. Et il faut savoir qu'en 61, Hollywood interdit de parler d'homosexualité au cinéma. Alors pour éviter la censure, William Wyler limite les occurrences explicites. Ça donne une scène très belle où le père d'une des gamines avoue ce qu'il leur reproche à Audrey Hepburn. Mais on est du point de vue de Shirley MacLaine qui les regarde depuis derrière une porte vitrée. Elle n'entend pas, mais elle comprend tout. Que ce qu'on leur reproche est indicible parce que la violence homophobe est lâche et ne dit même pas son nom, et que désormais, cette vitre de la honte, aussi injuste soit-elle, s'insinuera aussi entre elle et son amie. Alors, malheureusement, plot twist ou plot triste, ça finit mal. En même temps, je vous spoil rien, puisqu'on sait qu'il faut attendre les années 2000 pour qu'un personnage LGBTQ+, survive à un arc narratif. Mais je vous parle de ce film ce soir parce qu'il résonne tristement avec l'histoire de Caroline Grandjean le mois dernier. Caroline Grandjean, c'est l'institutrice du village de Moussage dans le Cantal qui a mis fin à ses jours le 1er septembre, jour de la rentrée scolaire, suite au harcèlement lesbophobe anonyme auquel elle a été exposée dans l'enceinte de l'établissement, sans être ensuite protégée ni par sa hiérarchie, ni par les forces de l'ordre qui avaient classé le dossier sans suite. Et ça m'a frappé de me dire que ce qui était dénoncé en 61 dans un film américain pouvait se rejouer encore en France le mois dernier. Alors plus que jamais, je voulais nous encourager à célébrer les luttes que nous avons gagnées, des luttes pour la visibilité, l'égalité des droits, la possibilité aujourd'hui de nous appuyer sur des réseaux forts d'entraide intercommunautaire, de solidarité, de joie, d'amitié et d'amour. Chérissons tout cela, et puisque l'histoire de l'homophobie, nous la connaissons déjà, faisons en sorte qu'elle ne se répète pas.
Et je crois qu'il faut toujours écouter.
Radio,
merci beaucoup Javel, cette virgule a surgi toute seule pour t'applaudir. Merci beaucoup pour cette toute première chronique. Je rappelle donc le titre de ce film, c'est La Rumeur de William Wyler, film de 1961. Un tout petit instant, tu peux nous redire peut-être quand a lieu la prochaine soirée à Bibi à la Flèche d'Or?
Oui, alors les soirées à Bibi, drague et cinéma, la prochaine c'est le 28 novembre. Et vous pouvez me trouver demain au théâtre du Gymnase pour Top Coat, la pièce de Ruby on the Nail.
Le meilleur salon de beauté de tout Paris. Et puisqu'on parle de salon de beauté, justement, on va un peu continuer à en parler. Et c'est là que la virgule, elle peut partir. Vas-y, Suzanne.
Le lobby.
Et je crois qu'il faut toujours écouter.
Radio Campus Paris.
Et on retrouve notre hair icon Adrien. Avec toi, on parle d'une initiative queer, pour ainsi dire, pas du tout tirée par les cheveux. Je suis hilarante. À toi.
Effectivement, on va parler de coiffure, on va parler de coupe de cheveux, ciseaux de tondeuse, mais aussi de transidentité.
et d'accessibilité. Tout ça se mêle et se passe le premier lundi de chaque mois dans ton salon de coiffure, Hélène, le Rapunzel Hair Salon. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonsoir, merci.
Et spécifiquement, on parlait d'une initiative qui s'appelle le Solidaire.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs, puisque moi, je sais évidemment ce que c'est qu'est-ce que l'initiative Solidaire dans votre salon?
Alors, bon, en fait, l'initiative, c'est de coiffer gratuitement. Donc, on a lancé pour le mois des fiertés, tous les lundis, était que pour les personnes en transition, donc les coupes et les coiffages gratuits. Et pour continuer dans ma lutte, je continue tous les premiers lundis du mois dans mon salon de faire des journées solidaires pour les personnes en transition.
Ok, donc c'est en ce moment là.
C'est ça. Y a, le prochain, c'est lundi 3 novembre.
Lundi 3 novembre, il y a déjà eu là en octobre, vous l'avez déjà fait?
Bon, j'ai perdu ma grand-mère. Oh non. J'ai pas pu y assister, okay. Mais oui, c'est tous les lundis.
Ok, donc tous les lundis, c'est... et vous avez recommencé. Comment c'est venu cette idée? Tu l'as dit que c'était pendant le mois des fiertés. D'où est-ce que c'est venu cette idée de proposer des coupes gratuites?
Alors en fait, j'ai toujours été bénévole dans d'autres associations et j'ai toujours cherché un moyen de pouvoir être une véritable aide, en fait. Et c'est vrai que dans mon quotidien, ça fait 19 ans que je suis dans la coiffure, j'en ai aidé énormément, je vois l'impact que ça peut avoir d'avoir une vraie chevelure, de se sentir à l'aise dans sa tête, avec ses cheveux. Et en fait, lorsque j'ai ouvert mon salon il y a un peu moins de 2 ans, j'ai eu des clientes en transition, et notamment des petites pitchounettes qui ont à peine 19-20 ans. Et j'ai coiffé un de tes papas, qui m'a dit, mais tu sais, depuis que tu as coupé les cheveux, c'est vraiment une autre femme, quoi. Genre, je la vois vraiment sortir la tête haute, et vraiment ça m'a touchée, ça m'a réellement touchée, d'autant plus que j'en avais parlé aussi avec d'autres collègues coiffeurs, où on avait envie d'être là aussi pour ces personnes.
Voilà. Et tu parles dans le post Instagram qui annonce le retour, la V2 de Solidaire. Vous avez écrit vouloir, ouverture d'un guillemets audio, créer un espace inclusif où toutes les personnes en transition puissent profiter gratuitement de nos prestations, parce que chacun, chacune mérite de sentir bien dans sa peau sans barrière financière. Pourquoi est-ce que vous avez préféré parler de personnes en transition, et qu'est-ce que la coiffure apporte justement aux personnes qui font une transition ou sont dedans, quoi?
Alors, en fait, durant le mois des fiertés, du coup, on a pu donc beaucoup coiffer les personnes en transition. Et Yael me disait qu'ils étaient souvent dans des boulots très précaires. Et donc, du coup, je trouvais ça normal de leur offrir cette prestation, parce que je trouve qu'une coiffure, ça peut réellement changer la vision qu'on a de soi. Et voilà. Et en plus, avec le climat politique actuel, je pense que c'est clairement une communauté qui en a besoin.
Ouais, je me rappelle quand je l'ai vu en juin qu'il y avait cette initiative-là qui était lancée, ça m'a fait du bien. En plus, là, de savoir que ça va rester, a priori, ça va rester toute l'année. Parce que la fierté, c'est toute l'année.
Voilà, exactement. Mais il y aura de nouveau tous les lundis pendant le mois des fiertés. Là, c'est juste un lundi par mois, et ensuite pour le mois des fiertés, tous les lundis.
Et une question qui est un peu intéressée, est-ce que c'est possible de faire des couleurs pendant les coiffures?
Oui, je suis en collaboration avec une de mes collègues qui est technicienne et qui participe aussi à ces mois, et enfin au mois des fiertés en tout cas. Et par contre, il y a une participation financière, parce que là, c'est pas juste quelques gouttes de shampoing et l'électricité. Ouais. Effectivement, les produits sont un peu plus chers, mais vraiment, c'est vraiment à hauteur des moyens de chacun et chacune.
Trop bien. Faire des coiffures gratuites, c'est assez radical. On voit rarement quand on en voit, c'est chouette, mais on voit rarement des salons de coiffure proposer des coupes gratuites. À quel point est-ce que c'est dur à supporter pour le salon? Est-ce que c'est quelque chose qui vous coule financièrement? Est-ce que c'est la fin du salon si vous faites ça? Ou est-ce que ça va? Comment ça se passe?
Mais absolument pas. Tout va très bien. Le business marche très bien. Non, mais enfin, je trouve ça dingue, effectivement, que la coiffure propose pas suffisamment des, euh, des choses bénévoles, en fait. On voit souvent pour coiffer les personnes sans abri, ou il y a des mouvements qui existent. Mais faire rentrer réellement les personnes dans le salon de coiffure pour leur faire bénéficier aussi d'un lieu vraiment safe, ben, il n'y en a pas. Et j'aimerais bien que ça soit un peu plus précurseur pour d'autres salons aussi, notamment aussi l'esthétique ou autre. Je trouve ça hyper important qu'on soit tous unis, quoi, par rapport à l'entraide.
Toi, ça t'évoque quelque chose, peut-être, Juliette Drouard, parce que j'ai l'impression que toi, en tant que thérapeute, et toi, Hélène, en tant que coiffeuse, vous êtes aussi à des endroits de soins et de soins communautaires. En plus, j'ai l'impression que les trucs se rejoignent. Je ne sais pas si tu recommandes à certains de tes patients d'aller... peut-être ça pourrait être une idée pour la suite, d'aller donc à Rapunzel. C'est quoi? C'est le premier lundi de chaque mois. C'est
exactement.
Ça qu'on rappelle, voilà, c'est ça.
Bah, ça m'évoque déjà que j'ai perdu vachement de cheveux. La hantise des mecs trans. mais blague à part, que bah ça m'évoque que ça m'a beaucoup touché, en fait. Ça m'a vachement ému, ce que tu disais. Vraiment, de proposer ça, c'est hyper beau. Donc ça, c'était la première chose. Je me suis senti très touché. Et aussi, je m'étais dit, il faut bien que je prenne... Le nom, parce que pour pouvoir en parler,
et eh bien redonnons-le du coup. Donc, ouais. Le salon de coiffure s'appelle Rapunzel, comme réponse,
exactement.
Voilà, balance-moi ta chevelure.
Très bien. Dit,
mais voilà. Et l'initiative s'appelle Solidaire, c'est donc le premier lundi de chaque mois.
Exactement.
Et le salon se trouve rue Sedaine dans le 11e arrondissement.
Exactement,
on a tout dit.
Voilà,
merci beaucoup, Hélène.
Je t'en prie.
Merci beaucoup, Adrien.
Merci à vous.
Il est 20h52, je n'ai plus l'horloge non plus, j'ai plus grand-chose. Et encore quelque chose qui est parti, comme un son, comme ça, c'est l'émission de toutes les surprises. On va continuer encore à parler de comment on prend soin de nos corps queer, je crois, avec toi, Lucie, n'est-ce pas? Je crois que tu m'avais envoyé un lancement, mais je crois que je ne l'ai pas noté. Alors c'est comme ça que je te lance. On t'écoute, Lucie.
Et oui, Colin, donc je disais qu'en intro, qu'en cette rentrée 2025, après une pause de 18 ans, j'ai pris une bonne résolution, car je me remets au sport. Et il y a presque un an, je faisais ma première chronique ici, au lobby. Elle racontait mon expérience à la Coupe Bernard Tapine. Ce soir, je vais vous parler de ce que j'ai vécu avant-hier au tournoi de la Gouine de Fer. Alors, vous allez me demander quels sont les points communs entre ces deux compétitions incontournables de la vie lesbie parisienne. D'abord, elles ont un nom amusant. Ensuite, elles s'adressent toutes les deux à la communauté Gouine, à ses athlètes et à son public. Enfin, en dépit de leur aspect amateur, elles déchaînent des passions féroces et une ferveur rare. Alors, la Gouine de Fer, c'est quoi? C'est une compète de bras de fer par et pour la commu Gouine. Ça existe depuis un an et demi à la Mutinerie à Paris et depuis cet été à Marseille, en Martinique et à Tunis. Et ce soir, je veux vous encourager à venir, à participer. Et je vous entends tout de suite me dire « Non, moi je suis pas musclée, je vais perdre direct, non. » Je leur réponds « Vas-y, perds, ça vaut le coup. » S'asseoir à une table face à une autre Gouine, plonger son regard dans le sien, prendre sa main, sentir les muscles de cet inconnu se contracter contre toi, éprouver dans ton bras tout son poids, écraser ou être écrasé. Moi, j'avoue, il m'est arrivé de faire semblant de perdre un bras de fer juste pour voir mon crush gagner, pour voir l'étincelle dans ses yeux. Le bras de fer, c'est une façon de provoquer des duels, c'est archi-romanesque. Sauf que contrairement au duel, au bras de fer, personne ne meurt, ni de honte, ni de déshonneur, ni d'un coup fatal. Et au contraire, tu ressors victorieuse à tous les coups. Si tu gagnes, tu seras fière de toi, si elle gagne, tu l'admireras. Car prendre la main d'une autre Gouine, c'est toujours une révélation. Moi, j'ai longtemps provoqué des bras de fer dans les bars, tard le soir, sauf que souvent, c'était contre des mecs 6-7, donc ça finissait toujours par être pénible. Et puis, j'ai souvent eu honte d'être musclée, notamment des bras. Je me souviens que c'était d'ailleurs un sujet de moquerie, j'ai porté le surnom de gros bras tout l'été de mes 10 ans. Aujourd'hui, grâce à Love Lies Bleeding, aux icônes Gouine et à l'avantage sexuel certain que représentent les biceps endurants, je donnerais beaucoup pour retrouver ce surnom étrange. Alors c'est avec tout ça en tête que je me suis rendue à ma première Gouine de Fer dimanche dernier, c'était la 5e édition, une édition anniversaire organisée par Gwen, Yves, Maureen et Os par Miena, avec à gagner une sélection de straps et de sextoys. Quand je suis entrée dans la mute, j'ai été saisie par la chaleur, il faisait moite, puis par le bruit, les rires, les cris, la musique. Dans mon état de lendemain de fête, c'était comme s'enfoncer dans un gros lit douillet, s'envelopper dans une couette très lourde. J'y ai vu une quasi-demande en mariage, des cuissardes en imprimé Python sublime, des faux ongles XXL, un micro-crop top Superman sur un six-pack, une butch de plus de 50 ans, des célibataires en chasse et même des touristes. À un moment, Miena a demandé au public « Vous êtes venu pour quoi? Vous êtes venu pour vous regarder ?» Et j'ai trouvé ça très juste. On se dévorait du regard, on se matait. On a tellement manqué. Moi, j'ai pas assez regardé les Gwyn. Je leur ai pas assez dit à quel point elles étaient belles, puissantes, à quel point je les désirais, à quel point je les admirais, à quel point j'étais fière d'elles. Cette Gwyn de fer, c'est une lettre d'amour à la communauté. On lui souhaite une longue et belle vie. On lui dit merci. Et pour la prochaine, on s'inscrit.
Merci beaucoup, Lucie, notre go musclée. C'est quand la prochaine, d'ailleurs, on sait déjà.
On ne sait pas encore, mais bon, bientôt.
On suit la mutinerie, on soutient la mutinerie d'ailleurs. Merci beaucoup, Lucie. En fait, c'est vraiment le soin a l'air d'être le fil rouge de cette émission. Juliette, je pense que tu as écouté aussi avec attention ce qu'il disait. J'ai vu aussi qu'à certains moments, il y avait de la réaction aussi en régie. Je vous vois, Père Castagne. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque, puisque effectivement, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais tu reviens effectivement beaucoup à cette question de la corporalité aussi, que c'est pas un ton essai « Trauma en finir avec nos violences », c'est pas un essai purement psychologisant, entre guillemets. Et là, je trouve que c'est un bel exemple aussi, une belle illustration. Je sais pas ce que t'en penses. Il n'y a pas vraiment de question. Débrouille-toi avec ça.
Non, mais moi, j'adore la Gwyn de fer. J'ai pas encore osé participer, mais franchement, telle ambiance sur Zone, allez-y.
Juliette Drouard, tu es toujours avec nous à l'occasion de l'apparition de ton livre, donc « Trauma en finir avec nos violences ». C'était aux éditions Stock. Il va être temps de nous quitter dans un petit instant. Mais d'abord, on va se dire merci. Ben oui, parce que voilà, dans le lobby désormais, on ne se quittera pas sans exprimer un peu de gratitude, sans envoyer de remerciements à une personne, un moment, un objet, un lieu, à une main tendue. À qui ou à quoi, Juliette Drouard, souhaiterais-tu dire merci ce soir ?
Je souhaiterais dire merci à mon amie Wendy Delorme à qui on s'est envoyé, c'est même plus des vocaux, c'est des podcasts aujourd'hui. on va créer une chaîne et non, mais j'ai énormément de gratitude pour qui elle est. C'est quelqu'un qui incarne pour moi la gentillesse. Y compris face à l'adversité. Une vraie gentillesse, pas... Enfin, je ne sais pas s'il y a de fausses gentillesses. Je ne sais pas où je vais avec ça, mais... et que j'admire énormément aussi avec tout ce qu'elle apporte en plus de son être au monde en amitié dans ses écrits. Et je pense à ça parce que je lis Le Parlement de l'eau en ce moment, qui est son dernier roman.
Sorti chez Cambourakis, je crois.
Qui est, sorti chez Cambourakis, qui est super, que je vous recommande, qui est hyper créatif et en termes de santé mentale, qui est assez drôle aussi parce qu'elle convoque des entités aquatiques dans sa tête. Donc, elles sont plusieurs, je vais dire, pour écrire ce roman. Et voilà, à chaque fois qu'elle écrit, c'est pas que pour elle. C'est vraiment, elle a envie de faire progresser les choses, elle le fait. Enfin bref, c'est trop long, mais en tout cas, merci Wendy,
non,
je t'aime.
Merci Wendy Delorme et merci à toi Juliette Drouard. Je rappelle donc le titre de ton dernier livre, Trauma en finir avec nos violences, c'est chez Stock. Merci beaucoup aussi Hélène d'être venue. On va donc au salon Rapunzel dans le 11e rue Sedaine, tout le temps quand on veut, mais notamment le premier lundi de chaque mois pour ces coupes gratuites à destination des personnes trans. Merci à toute l'équipe du lobby, que je remercie, à la réalisation Suzanne 5K, au micro Adrien, Lucie Chat et Javel. Notre émission s'écoute comme toutes les autres sur le site de radiocampusparis.org et sur toutes les applications de podcast. Qui l'eût cru, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Dans un instant, et là il n'y aura pas de problème, ce sera au Pays des Rêves. Au Pays des Rêves était à la fête de l'humanité et a un petit peu enquêté sur justement la gestion des violences sexistes et sexuelles au sein de ce festival. Donc c'est un petit peu en lien avec tout ce qu'on vient de raconter pendant une heure. Restez donc sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Bonne soirée.